L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
On va à présent parler de la nouvelle exposition du musée Jean-Claude Boulard avec Julie Bouillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle accueil et communication du musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenêt. Vous êtes également responsable de la collection Histoire et archéologie du musée et co-commissaire d'une nouvelle exposition sur les animaux. Alors cette exposition, inaugurée le 19 octobre 2024 et qui se prolongera jusqu'au 2 novembre 2025, porte sur la relation entre l'être humain et l'animal. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là exactement ?
Alors l'idée, lorsqu'on a monté ce projet, c'était vraiment d'offrir une nouvelle perspective à notre collection archéologique. Donc le musée, il va de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et à chaque fois qu'on fait des visites ou qu'on présente les collections, on va toujours évoquer les animaux, soit parce qu'ils sont représentés sur des objets archéologiques, soit parce qu'on va parler de ce que l'on consomme, de ce que l'on mange aux différentes périodes. Donc on est souvent amené à convoquer l'animal, parce qu'il y a toujours eu des relations entre l'homme et l'animal. Et cette exposition, c'était l'occasion et bien justement d'incarner un petit peu ce lien entre l'être humain et les animaux en proposant et en présentant tout au long du parcours, de manière chronologique, des animaux naturalisés.
Alors il s'agit moins peut-être de présenter des animaux que leur représentation par l'homme peut-être ?
Non, alors on présente vraiment des animaux naturalisés, dont des très grosses bêtes. Il y a un lion, un cerf, un renne, un ours, etc. Mais à chaque fois, on va, en fonction, en fin de compte, du parcours, du moment, ils vont être évoqués de manière différente. Parfois, c'est pour leur rôle utilitaire. Donc justement, le cheval qui était utilisé pour la guerre ou pour le transport, beaucoup plus avant qu'aujourd'hui où on l'utilise plus pour le loisir. Et puis des moments sur des questions plus symboliques. Par exemple, l'ours était considéré comme le roi des animaux au début du Moyen-Âge. Et ensuite, il a été détrôné par le lion. Et on présente le lion en rapport avec des gisants. Des gisants, c'est des sculptures funéraires de chevaliers et au pied desquels il y a des lions qui sont justement représentés. Donc on fait comme ça des liens constants.
Alors, on va revenir sur plusieurs de ces aspects. D'abord, est-ce qu'on peut préciser sur quelle ligne chronologique s'étend l'exposition ?
Oui, alors la ligne chronologique, ça correspond vraiment à la chronologie des collections du musée. Donc ça part de la préhistoire et ça va jusqu'à la fin du Moyen-Âge, avec une petite incursion néanmoins au 19e siècle, avec un cheval donc, qui est présenté près d'un tableau de Soriol, la bataille du Mans, qui est au début du musée.
Alors, est-ce que quand même ça nous apprend quelque chose sur l'homme, j'imagine, cette évolution, nos rapports avec les animaux ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que déjà l'homme a toujours représenté le monde animal. On le sait parce qu'on connaît les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, et donc il y a toujours eu un intérêt déjà artistique et esthétique. Au niveau, nous, du musée archéologique, on a un galet dit au glouton. Le glouton, c'est un petit... c'est pas un petit animal, d'ailleurs, c'est un animal qui ressemble à une sorte de gros blaireau, qui est un cousin de la belette, qu'on trouve aujourd'hui dans les régions du nord arctique. Et ce glouton, il a été gravé sur un galet et donc on le présente à la fois naturalisé et puis le galet gravé à côté. Donc on va développer ainsi les présentations.
Alors dans cette exposition, on apprend notamment que l'homme a domestiqué les animaux donc dès la préhistoire. Qu'est-ce qui explique en fait ce comportement qui est quand même assez unique dans le règne du vivant ?
Oui, alors on ne sait pas trop, par exemple, pour la domestication animale qui commence dès le paléolithique, donc effectivement c'est très ancien. Donc nous on évoque là dans l'exposition la domestication entre le loup et puis qui viendra ensuite le chien. Les chiens sont à 99,9% des loups. Et donc on ne sait pas trop si c'est le loup qui a décidé de se rapprocher de l'homme pour obtenir de la nourriture et du soin.
Ah oui, ça peut être dans ce sens-là aussi.
Ouais, c'est, en fait, on ne sait pas. Ou si c'est l'homme qui a décidé d'apprivoiser ces animaux pour les aider, disons, dans justement la chasse et qui vont ensuite devenir des animaux de compagnie si fidèles. Et ce qui est intéressant dans la domestication, c'est que donc au départ, les loups sont des animaux sauvages et il va y avoir une sélection qui va s'opérer progressivement puisque les hommes vont garder en fait ceux qui sont les plus attentifs, ceux qui sont les plus fidèles, gentils entre guillemets. Et c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui il y a tant de races de chiens et que les chiens sont aussi en lien avec les hommes.
Il y a une forme de contre-sélection naturelle, quoi.
Exactement.
Alors, les animaux ont donc pour l'homme des vertus utilitaires, mais pas seulement. Ils sont aussi générateurs de mythes, de récits. Est-ce que c'est un aspect que l'exposition met en avant ?
Oui, on le met en avant. Alors, un petit peu sur la partie médiévale, sur la partie romaine, mais beaucoup surtout sur la partie médiévale, où vraiment il y a un rapport à l'animal très fort. Il y a des bestiaires médiévaux qui sont rédigés. Et on va, dans les animaux, à la fois y voir des représentations symboliques de sortes de qualités que l'on souhaiterait avoir pour soi. Ainsi, les lions, à partir du XIIe siècle, sont les animaux considérés comme les rois des animaux. On va les retrouver beaucoup sur les blasons parce qu'ils représentent la force, le courage, la bravoure.
Et qu'est-ce qui explique d'ailleurs qu'on leur mette une couronne comme ça au lion ?
Eh ben, il détrône l'ours. En fait, l'ours au début du Moyen-Âge, ça semblait assez évident parce que c'est un animal qui est un animal très puissant, qu'il est difficile de combattre. Et donc, se battre avec un ours, c'est une sorte de privilège royal, le privilège des princes.
C'était le plus gros animal terrestre connu, j'imagine.
Oui, exactement. Et donc, c'était comme ça, considéré comme pas anodin. Le lion, c'est pas du tout un animal aussi, puissant que l'ours. Et néanmoins, progressivement, parce qu'il a aussi un rôle dans la Bible. Et en fait, il y a la place au Moyen-Âge de la religion, et c'est l'Église qui va progressivement dire que l'ours est un animal pataud, pas très intelligent, etc. Et au contraire, ils vont mettre sur un piédestal le lion, qui est considéré comme représentant justement de la partie positive du Christ. Et donc c'est ainsi que l'on va valoriser le lion. Et de la même manière, on présente les animaux maudits et les animaux sacrés pour le Moyen-Âge. Et là encore, les animaux maudits, ce sont les animaux nocturnes, ce sont les animaux visqueux, ceux qui ont le plumage noir, que l'on va, comme ça, l'Église notamment, va les mettre de côté au profit des animaux au plumage et au pelage blanc, couleur du sacré.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal comme dans ce rapport entre êtres humains et animaux, entre d'un côté l'usage utilitaire et comestible, et de l'autre la sacralisation ?
Bah, de toute façon, il y a effectivement un rapport. Enfin, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est justement de voir comment ce rapport a pu évoluer, puisqu'au départ, au début, il y a évidemment un lien utilitaire. L'animal va servir à se nourrir, il va servir à faire les vêtements aussi, la laine du mouton, le cuir que l'on va récupérer. Donc, on a vraiment ce côté-là. Puis, la partie utilitaire pour le transport, pour les travaux agricoles. Donc, ça est vraiment important. Et puis, au fur et à mesure du temps, ce rapport évolue pour devenir un rapport presque aujourd'hui pour un certain nombre d'animaux dans la domestication. Quant à la symbolique, bah comme je vous le disais, dès le départ en fait, dès la préhistoire, ils vont être représentés. Donc les hommes voient dans les animaux des êtres puissants, des êtres importants, et donc ils décident de les valoriser d'une manière ou d'une autre. Et au fur et à mesure des périodes, on va avoir des visions différentes aussi. On n'a pas toujours le même rapport à l'animal. Il évolue avec le temps.
Alors au Moyen-Âge, vous l'avez mentionné déjà, apparaissent les bestiaires et en fait un certain souci de répertorier les animaux qui pouvaient par ailleurs être considérés comme coupables de crimes. Il y a des affaires de jugement d'animaux pour ce qui est qualifié de crime. Est-ce que le Moyen-Âge se caractérise par le besoin de connaître, voire de reconnaître les animaux ?
Alors c'est vrai que c'est intéressant, je ne suis pas spécialiste, mais c'est Michel Pastoureau qui a beaucoup travaillé autour des procès des animaux. Pour vous donner des exemples, les cochons, au Moyen-Âge, beaucoup étaient dans la rue, puisque c'était aussi eux qui faisaient un peu office de poubelle, c'est-à-dire qu'ils allaient manger les déchets, et ils pouvaient avoir des accidents. Donc un exemple, par exemple, c'est un enfant qui est tué par un cochon alors qu'il était dans son berceau. Et ce n'est non pas le propriétaire du cochon qui va être reconnu comme coupable de l'avoir laissé dans la rue, mais bien le cochon qui est considéré comme une entité vivante, et donc un vrai procès avec des avocats de la prison et des systèmes de mise à mort des animaux. Et ça se pratique énormément. Donc on voit bien une évolution dans nos mentalités, puisqu'aujourd'hui on ne fonctionne pas du tout de la même manière.
Mais qu'est-ce qui expliquait cette manière de juger des animaux comme des hommes ?
Même, j'aurais pas forcément les réponses exactes, mais je peux dire quand même vraiment cette place de cette Église quand même qui va apporter par rapport au vivant un rôle particulier et qui va donc mettre dans des catégories un certain nombre d'animaux. Alors, par rapport au jugement, j'aurais du mal à vous apporter de réponse juste, ou en tout cas dont je sois certaine, mais ce qui est important à dire aussi, c'est leur régime alimentaire au Moyen-Âge. Il va vraiment être différé, donc déjà selon son niveau social, mais aussi selon selon les catégories d'animaux. Par exemple, il est préférable de manger des oiseaux qui sont dans le ciel et donc plus proches de Dieu que de manger des navets qui sont dans le sol et donc plus proches du diable. De la même manière, on va consommer des, on ne peut pas consommer régulièrement de la viande rouge ou de la viande animale parce que ça donne le sang chaud, ça donne des humeurs vives et il y a beaucoup de jours saints, donc les jours de carême, les jours de Pâques, etc. C'est près de 100 jours dans le calendrier, donc c'est énorme. Et pendant ces 100 jours-là, on n'a pas le droit de manger de viande. Donc on va par contre manger beaucoup de poissons qui sont considérés comme des animaux... disons, qui apporte une humeur stable. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle dans la religion chrétienne, et encore souvent, on entend un peu moins de maintenant, mais encore quand moi j'étais enfant en tout cas, le vendredi, c'est le jour du poisson. Voilà. Et c'est pas un hasard en fait, c'est associé à tout ça.
Alors à la suite des travaux que vous avez réalisés pour la création de cette exposition, est-ce que vous sauriez contextualiser notre relation aux animaux aujourd'hui au sein de cette évolution ? Est-ce qu'on s'inscrit dans la continuité ou dans la rupture des rapports que nous entretenions entre humains et animaux au Moyen-Âge, à la préhistoire ?
Alors c'est une question extrêmement intéressante qu'on ne développe pas forcément dans l'exposition, mais qui sont des vrais sujets de discussion lorsqu'on peut évoquer ces sujets avec les visiteurs, puisque en fait l'animal il a été présent, mais plus que présent, puisque sans lui l'homme ne pouvait pas survivre. Et ça pendant des années, pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on a un rapport à l'animal en fin de compte qui est très différent et beaucoup plus distancié, puisque soit c'est l'animal domestique qui donc est notre plus proche compagnon, dont on va voir des vidéos, etc. Mais dans la nature, les animaux sont quand même entre guillemets moins présents, où on va les voir en zoo. Quand on a la chance de les voir en forêt, on est heureux. On les observe en tout cas d'une autre manière. Ils sont beaucoup moins proches que nous qui ne pouvaient l'être avant. Il faut imaginer que les animaux étaient dans la rue régulièrement, même en ville. Enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça de beaucoup plus fort. Les animaux qu'on consomme aujourd'hui, on les achète dans la boucherie ou dans les grandes surfaces. En fait, on ne voit pas l'animal. Donc oui, il y a un rapport qui a évolué, où à la fois je pense qu'il y a une attention de plus en plus forte portée au monde animal, on le voit bien hein, dans les attentions aujourd'hui sur le bien-être animal, hein, tout simplement. Et en même temps, on a un rapport qui est beaucoup moins fort en réalité que ça n'a pu l'être préalablement.
Alors concrètement, comment se présente cette exposition ? Quels en sont les différents dispositifs ?
Alors c'est une exposition qui est une exposition un peu différente de nos expositions temporaires classiques, puisqu'en fait elle s'installe dans le parcours permanent, c'est-à-dire dans le musée, au milieu des collections d'archéologie et d'histoire. Et là vous allez observer sur des estrades un certain nombre d'animaux qui vont être toujours en rapport avec les périodes concernées. On en a également proposé dans les vitrines. Donc il y a tout un parcours historique, disons, scientifique, qui apporte à chaque fois des informations. Il y a également des dispositifs tactiles pour toucher en fait les matériaux, pour toucher les objets faits en os ou en bois d'animaux, de manière à ce que le public puisse comprendre. Et en plus de ce parcours un peu de sérieux, on a aussi un parcours décalé, donc avec 10 animaux, une dizaine d'animaux qui sont présentés ici, mais alors vraiment on ne sait pas trop pourquoi, ou en tout cas on peut s'interroger. Et on a fait des pastilles sonores avec un côté très décalé, très drôle autour de ces animaux-là.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'ailleurs des animaux présentés dans l'expo ?
Alors, dans les animaux sérieux, disons, on va avoir, j'en ai déjà un peu parlé, le cheval, un cerf, un renne, une vache et des moutons, un cochon, un sanglier, un faisan, un cygne, un crocodile, un lion, un ours, voilà, enfin, y en a près entre 70 et 80, donc c'est assez conséquent. Et puis les animaux qui sont un peu, on se demande pourquoi ils sont là, mais qui nous racontent leur parcours. On a une antilope qui s'appelle Pénélope. Pénélope, notre antilope. On a un porc épique qui sort de chez le coiffeur et qui n'est pas très content. Nous avons des piques qui se font un peu la guerre, ou un francolin, c'est un oiseau qui est légèrement complotiste.
D'accord, donc il y a des petites mises en scène comme ça en fait.
Oui, alors c'est un système avec des QR codes ou des audio guides. Et là, c'est vraiment l'idée de casser un peu les codes. Et donc, le public qui découvre ces animaux-là peut s'amuser en les écoutant parler. En fait, on leur a donné la parole.
Alors, l'exposition se voit aussi animée d'une programmation artistique, concerts, parcours contés ou dansés, etc. Comment ça va se passer en fait ?
Donc là, c'est toute une programmation qui est mise en place par le pôle des publics. Donc l'exposition dure jusqu'en novembre 2025. Donc il y a plein de propositions qui sont faites. Là encore, une grosse envie avec de la programmation culturelle un peu différente de ce qu'on peut proposer habituellement, c'est de créer d'autres liens entre des univers et de faire découvrir cette collection de manière plus vivante, avec de l'art vivant. Et ça nous plaît beaucoup.
Oui, parce que cette exposition, elle s'inscrit en fait dans une évolution du musée Jean-Claude Boulard, qui doit devenir le musée de l'histoire naturelle et culturelle du Mans et de son territoire. Quel est l'enjeu en fait de cette évolution de l'orientation scientifique du musée ?
Exactement. Le musée vert est amené à fermer ses portes. Donc, c'est le musée d'histoire naturelle qui est un petit musée situé dans le quartier de Pontlieu. Il y a une surface d'exposition qui fait à peu près 150 mètres carrés, ce qui est très peu. Et depuis quelques temps déjà, il y a un projet de métamorphose des musées avec un objectif d'avoir à la fin deux grands musées permettant vraiment de répondre aux enjeux muséaux contemporains. Et donc, l'idée, c'est que le musée tel qu'il se présente aujourd'hui, donc le musée Jean-Claude Boulard Carré-Plantagenêt, voit son parcours complètement refondu avec des collections à la fois d'histoire naturelle, d'archéologie, d'histoire plus récente pour, comme vous l'expliquiez, évoquer l'histoire naturelle et culturelle du Mans. Donc il y a un grand projet et cette exposition s'inscrit comme une étape en tout cas dans cette préfiguration puisqu'on commence déjà à associer, ce qui n'est pas toujours très fréquent, des collections d'archéologie avec des collections d'histoire naturelle. L'objectif c'est de casser un peu les frontières habituelles où les musées sont vraiment dans des catégories. Et là, à un moment donné, on dit on va aller dans une autre façon de présenter les collections. On va ouvrir d'autres regards, d'autres portes, en associant des collections qui habituellement sont dans des musées différents.
Oui, et du coup, est-ce qu'il s'agit aussi de répondre à des enjeux, des questionnements importants de notre temps ? Je pense évidemment à la crise climatique, mais aussi à la destruction de la biodiversité.
Oui, effectivement, ça fera partie des enjeux. Alors nous, quand on présente nos collections, disons, et parfois des collections qui ne sont pas sur des sujets contemporains, mais ça fait partie des grands enjeux aujourd'hui. Les musées ne doivent pas justement être des lieux poussiéreux, enfermés dans des choses anciennes. Et donc, dans le futur musée, il y a vraiment une envie de mettre en avant ces grands débats, ces grandes réflexions qui pourront donner lieu à des conférences, à des débats, à des expositions qui parleront de ces sujets contemporains absolument prégnants et indispensables aujourd'hui dans notre quotidien.
Et alors, comment s'est fait le choix d'ailleurs de cette exposition en fait ? Pourquoi cet angle sur les animaux ?
Alors, c'est une exposition que moi j'ai en tête depuis très très longtemps, pour tout vous dire. Ça fait au moins 7 ou 8 ans que j'y pense, justement à ce rapport aux collections archéologiques. Parce que j'avais vu une expo à Nantes aussi, qui m'avait intéressée, qui m'avait interpellée, où il y avait un animal en lien avec des collections d'histoire, d'art contemporain et d'histoire. Et donc, ça s'est présenté et ça a pu se mettre en place cette année, justement parce que, avec le projet de fermeture du Musée Vert, on s'est dit c'est l'occasion en fait de commencer à créer du lien. Voilà.
Alors, Julie Bouillet, dernière question. Vous avez travaillé avec Nicolas Morel pour la conception de cette exposition. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Qu'est-ce que vous apportez mutuellement ?
Alors, moi, j'ai assuré ce qu'on appelle la direction de projet. Donc, j'ai assuré tout le suivi, la coordination, aussi bien le suivi budgétaire, financier, technique, etc. Donc, moi, j'avais ce côté-là. Et en termes de commissariat scientifique, on s'est vraiment réparti les rôles, puisque moi, je suis responsable des collections d'archéologie et d'histoire. Donc, je connais bien mon fond. Et lui, il est responsable des collections d'histoire naturelle. Donc, il connaît bien les animaux. Donc, c'est ensemble qu'on a vraiment pu élaborer et construire ce discours. Et puis, Nicolas a aussi tous les liens avec les muséums, puisqu'on a eu des prêts aussi de quelques muséums. Muséums nationaux. Donc c'est vraiment, c'était très très complémentaire et ça a été extrêmement enrichissant de travailler ensemble sur ce projet.
Je vous remercie Julie Bouillet, commissaire de l'exposition Les animaux s'emparent du musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenêt. C'est donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 novembre.
Jusqu'au 2 novembre. 2 novembre, 2025.
Voilà. Je me disais bien que
jusqu'au 2 novembre 2025.
Oui, 2025, c'est important de le préciser, ouais. Évidemment, sinon ça fera un peu court.
Exactement.
Je vous remercie Julie Bouillet.
Merci à vous.
À bientôt sur notre antenne.
Merci.